Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous avez séjourné en Ituri où vous avez visité des sites des déplacés qui vivent dans des conditions difficiles. Quelle est la nature de la protection que la MONUSCO leur apporte?
Effectivement, j'ai passé un peu plus d'une journée en Ituri et, mis à part les discussions que nous avons eues avec les autorités provinciales à Bounia, nous sommes allés dans un site de déplacés qui s'appelle Drodro. Cette localité s'appelle Drodro. Et il y a là-bas des personnes qui ont été déplacés à la suite des affrontements entre les communautés, entre des groupes armés. Alors, la situation de ces personnes, elle est très préoccupante. La bonne nouvelle, c'est que la MONUSCO les protège, et nos collègues de la MONUSCO font la différence entre, on peut le dire, la vie et la mort pour ces personnes. Et c'est le cas dans de nombreux autres sites et dans de nombreuses autres localités de la province de l'Ituri et dans d'autres provinces de l'Est du Congo. Donc je pense que le constat qui est important de souligner, c'est que nos collègues de la MONUSCO, tous les jours, protègent des centaines de milliers de personnes et souvent font la différence entre la vie et la mort et aussi permettent à l'assistance humanitaire d'être délivrée à ces populations vulnérables. Maintenant, ça suffit pas de les protéger là où elles se sont déplacées, dans ces camps qui parfois contiennent des dizaines de milliers de personnes. Il faut travailler pour qu'elles puissent retourner chez elles, dans leur village. Pour ce faire, il faut que les capacités et la présence de l'État congolais se renforcent. Parce qu'en Ituri, par exemple, nous avons une présence assez importante, environ 2000 soldats et nos collègues civils et les policiers. Aujourd'hui, pour des raisons diverses, la présence des FARDC est très faible. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les autorités à qui nous avons parlé. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner et soutenir le renforcement, qui est d'ailleurs annoncé pour ce qui concerne l'Ituri, de la présence de l'État congolais, notamment des forces armées, des forces de sécurité. Voilà la situation telle qu'elle est, telle que j'ai pu la constater lors de ce séjour en Ituri.
Dans l'est de la RDC, il y a les forces de l'EAC, mais bientôt aussi les forces de la SADC qui y seront déployées. Comment percevez-vous la multiplicité des acteurs militaires dans la zone dans ce contexte?
Bien, d'abord, ces déploiements présents et à venir traduisent le fait que les partenaires de la République démocratique du Congo sont disposés à venir aider ce pays, notamment ce qui concerne la situation dans les zones affectées par le M23. Ça, c'est positif, en ce sens que la République démocratique du Congo, le peuple congolais, ont des partenaires, organisations régionales, Nations Unies, donc Communauté de l'Afrique orientale, SADC, peut-être demain, Nations Unies, je l'ai dit, Union africaine, des partenaires qui sont unis, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'autres situations du monde aujourd'hui, comme vous le savez, et qui sont de bonne volonté. Alors peut-être que parfois, les réalisations ne sont pas à la hauteur des attentes. Et il faut souligner que la responsabilité première pour ramener la paix et la stabilité, elle revient aux autorités congolaises, à leurs forces de sécurité, à leurs forces armées, à l'État dans sa totalité. Mais ces présences sur le terrain, qu'il faut bien sûr coordonner, et nous nous y employons, et je crois que la coordination entre les FARDC, la MONUSCO et la force de EAC s'est nettement renforcée, ces forces ont quand même un rôle important, puisque aujourd'hui, les hostilités ont quand même beaucoup diminué d'intensité, ce qui se traduit par des vies sauvées, ce qui se traduit aussi par la possibilité de fournir davantage d'aide humanitaire aux populations, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin comment? D'abord, il faut renforcer l'aide humanitaire, parce qu'aujourd'hui, les populations déplacées, notamment au Nord Kivu, ne bénéficient pas et de loin d'une aide humanitaire suffisante. Deux, il faut que nous continuions de renforcer notre travail commun sur le terrain, encore une fois, mission MONUSCO et les autres forces présentes, aussi en mettant l'accent sur les processus qui sont importants, le cantonnement, pré-cantonnement et cantonnement des éléments du M23, pour lequel nous avons aussi eu des consultations avec les autorités de l'Angola, qui sont prêtes à déployer des militaires pour superviser ce processus de cantonnement. Nous employons activement à faire avancer ce processus en liaison avec les autorités congolaises. La protection exercée par la MONUSCO en liaison avec les autres forces sur le terrain de Goma, qui est cruciale et pour laquelle nous avons pris des mesures, et la protection d'autres sites. Les efforts politiques, parce que la solution, elle ne sera pas que sécuritaire, bien sûr, comme toujours, elle passe par la mise en œuvre des différentes décisions qui ont été prises dans le cadre des processus régionaux, Nairobi, qui porte plutôt sur le désarmement, démobilisation et intégration, processus de Luanda. Il y a cette feuille de route de Luanda qui contient tous les éléments indispensables qui ont été endossés par l'Union africaine, soutenu par les Nations Unies. Voilà un peu aujourd'hui le contexte général de ces efforts.
La RDC est à quelques mois des élections. Quelle est la contribution de la MONUSCO, des Nations Unies, dans ce processus?
Il y a eu déjà beaucoup de soutien, y compris logistique, au processus électoral apporté par la MONUSCO. Il y a également nos collègues des agences qui soutiennent la préparation de ce processus. Je crois que aujourd'hui, il est important de mettre l'accent sur la nécessité que ce processus se déroule de manière apaisée, sans violence, parce qu'il y a eu récemment des tensions et même des violences, et c'est très préoccupant. Et je pense aussi qu'il est essentiel que nous agissions peut-être davantage face à ces messages de haine, de xénophobie, d'antagonisme ethnique, des messages aussi qui visent particulièrement les femmes et les femmes engagées en politique. Il faut que nous luttions ensemble avec tous les partenaires congolais contre ces messages de haine qui peuvent avoir un effet dévastateur, non seulement sur le processus électoral, mais sur le pays en général.
Alors, quel message pouvez-vous adresser aux Congolais dans ce contexte électoral en ce qui concerne ces messages de haine pour des élections apaisées, démocratiques, libres et transparentes?
Je pense que s'agissant des messages de haine, il faut d'abord dire résister à la tentation d'aller sur cette pente glissante, dangereuse, mais parfois, il faut le reconnaître, attirante, de ces messages simplistes, de ces messages de division, de ces messages de haine. Ça, c'est la première chose. Je pense que nos collègues journalistes ont un rôle aussi, tous, pour contribuer à contrer tous ces messages négatifs. La deuxième chose, bien entendu, c'est qu'il appartient aux forces politiques. Donc, c'est un message adressé à l'ensemble des acteurs politiques de combattre ces messages de haine. Bien sûr, il appartient aux autorités de participer à ce combat. Donc, c'est vraiment un enjeu collectif, mais qui est d'une importance cruciale.
Pour terminer, Monsieur Lacroix, le gouvernement congolais, à travers le Premier ministre, a demandé une date précise du départ de la MONUSCO d'ici la fin de l'année prochaine. On sait aussi qu'une telle demande doit avoir l'approbation du Conseil de sécurité. Avez-vous discuté de ça avec le président Tshisekedi?
L'un des points essentiels, et peut-être le point essentiel des discussions que nous avons eues avec nos partenaires congolais, y compris avec les autorités, le Premier ministre, les membres du gouvernement, bien sûr, le Président de la République, c'est la question de l'évolution graduelle de la MONUSCO et le processus de transition. Ce qui est clair, c'est que la MONUSCO, comme j'allais dire toute opération de maintien de la paix, elle s'inscrit dans un processus de départ graduel au fur et à mesure que les conditions nécessaires pour que son départ soient réalisées. Je crois que nous avons eu une assez grande convergence dans nos discussions avec les autorités sur ce que cela suppose. J'ai déjà dit que les collègues de la MONUSCO protègent directement et souvent exclusivement à eux seuls des centaines de milliers de personnes. Dans la transition graduelle de la MONUSCO, il faudra éviter à tout prix qu'il y ait un vide sécuritaire qui serait dévastateur pour ces populations. Donc cette transition, elle ne peut se faire que dans la mesure où les capacités de l'État sécuritaire et en matière de justice et de police, ce serait renforcé de manière à garantir que les populations vulnérables pourraient continuer à bénéficier de la protection et, j'allais dire, même d'une protection renforcée qui leur permettrait non seulement d'être sécurisés dans les sites de déplacés ou les camps de déplacés, mais aussi de revenir chez elles et de reprendre leur vie normale. Il n'y a pas de divergence sur ce point. D'ailleurs, la protection des civils, de même que le renforcement des capacités de l'État, ça fait partie des jalons prioritaires qui sont retenus comme tels à la fois par les autorités congolaises et par nous-mêmes. Ensuite, il est important que nous continuions l'effort pour procéder et soutenir à ces processus que sont le renforcement du secteur de sécurité et le désarmement, le PDDRCS, qui est le cadre dans lequel doit s'opérer le désarmement des groupes armés. Et sur ce point, nous avons entendu les autorités qui nous ont dit qu'il était important que dans cette phase nouvelle qui va s'ouvrir de la mission, nous renforcions nos actions dans ces domaines. Donc c'est quelque chose que nous allons prendre en compte. Ensuite, il a été question justement de ces efforts régionaux, de ces déploiements régionaux. Et nous avons exprimé notre disponibilité à demander à nos États membres que nous puissions avoir un mandat accru pour faire davantage en matière de soutien à ces forces régionales qui se déploient sur le terrain. Dès lors, bien sûr, que tout cela se ferait en bonne intelligence et coordination avec les autorités congolaises et notamment les FARDC et la PNC. Donc, pour me résumer, nos discussions font apparaître que, évidemment, nous nous inscrivons, comme c'est logique d'ailleurs, dans un processus de départ mais un départ qui doit être graduel et raisonnable, et raisonné, ordonné plutôt, je crois que ce serait le bon terme. Deuxièmement, que cela doit continuer à se faire en parfaite coordination avec nos partenaires congolais. Troisièmement, qu'il y a, je pense, convergence pour faire en sorte que ces fameux jalons essentiels, maintien de la protection des civils, renforcement des capacités de l'État, désarmement et diminution en puissance significative des groupes armés, tous ces jalons soient respectés. Et cela donne un peu, je crois, une idée de la manière dont nous concevons, je pense, les autorités congolaises et nous-mêmes, ce processus de transition graduelle, étant entendu naturellement que les membres du Conseil de sécurité ont un rôle important, puisque ce sont eux qui décideront, bien sûr, en examinant nos recommandations et suggestions, la marche à suivre s'agissant du mandat de la MONUSCO dans la période après le 31 décembre 2023.
Jean-Pierre Lacroix, je vous remercie.
Merci beaucoup.